Il est 15h04. Merci d'être des nôtres à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour jusqu'à 18h. On a 1 degré à Québec. Le ciel s'est quelque peu alourdi dans le centre de la ville. Vous dire qu'on prévoit peut-être un peu de neige pour cet après-midi, ce soir et cette nuit. On parle pas encore d'accumulation. Minimum de moins 1 pour la nuit. Demain, généralement nuageux. Ça se dégage au cours de l'après-midi avec un maximum de 3 degrés. Normalement, on aurait du soleil samedi, mais c'est très changeant pour samedi parce que la neige débuterait en fin de journée pour se poursuivre dimanche. Samedi, maximum 2 degrés. Dimanche, maximum de moins 1 sur les routes. Audrey.
Il y a encore quelques problèmes sur la capitale, direction ouest surtout. Je vous dirais, c'est entre Henri Bourassa et Robert Bourassa. Des problèmes d'un accident qu'il y avait un peu plus tôt, entre autres. C'est pas mal tout pour l'instant. Le reste, ça roule super bien. Il y a quoi que ce soit, 88-971-102 texto.
On aime tourner une page une fois de temps en temps de l'histoire de la musique, mais le devoir de mémoire nous oblige des fois à retourner dans le livre d'histoire de l'humanité parce qu'on oublie vite, plus vite qu'on n'a jamais oublié peut-être. On est dans l'instantané avec tout ce qui est jetable, puis même dans ce qui est, on va appeler ça du divertissement puis du futile. Regardez à quelle vitesse, mettons, il y a le buzz sur une série ou un film. Puis si tu l'écoutes une semaine trop tard, il n'y a plus personne qui a le goût d'en parler avec toi. Là.
On se rappelle même pas ce qu'on écoutait en mars.
Exact. Et cette semaine, j'ai comme eu une prise de conscience quand on a commencé la série des grandes conversations sur les événements historiques de Québec. Puis c'est de voir à quel point, justement, on passe vite à autre chose, à un point tel que des gens qui vivent au cœur de secteurs historiques le savent souvent même pas. Puis quand je dis historique, là, t'sais, prenons l'exemple de l'attentat de la mosquée. Bien, il y a des gens qui vivent à une rue, deux rues de là, puis qui ne sont pas au courant que c'est arrivé. Ça dépasse un peu l'entendement. C'est une journée bien particulière en France aujourd'hui, parce qu'on est 10 ans jour pour jour après un événement, ou plutôt une série d'événements, qui a laissé derrière 132 morts et 350 blessés à Paris et dans sa banlieue il y a 10 ans. La France qui commémore aujourd'hui les attentats djihadistes du 13 novembre. Une journée d'hommage, l'ouverture d'un jardin dédié aux victimes. Et il y aura un musée mémorial du terrorisme qui va ouvrir 2029-2030 à Paris, en France.
Les cérémonies se déroulent au moment où on se parle, d'ailleurs.
Oui, exact. De très nombreux Français qui se souviennent de cette soirée d'automne il y a 10 ans, vers 21h30, le 13 novembre 2015, 3 kamikazes d'abord se font exploser près du Stade de France à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, où se joue un match de foot France-Allemagne. Un chauffeur de car est tué. Peu après, t'as le commando des terrasses, triste surnom donné à la série de mitraillettes, ou plutôt de mitraillages qui a eu lieu, bars et restaurants dans des quartiers animés de la capitale française, le Petit Cambodge, le Carillon, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe. À 21h40, un autre commando, le dernier, arrive au Bataclan, salle de spectacle mythique de Paris, où se produit le groupe américain Eagles of Death Metal ce soir-là. Les premières victimes tombent sur le trottoir, puis les tueurs font feu dans la salle pendant près de 3 heures jusqu'à l'assaut des forces d'élite. Les attaques revendiquées par l'État islamique font 130 morts, dont 90 dans la salle du Bataclan, plus de 350 blessés. Et des fois, ça ne s'arrête pas là. Hein. C'est important de le mentionner. Il y a 2 rescapés du Bataclan qui se sont enlevés la vie depuis et on porte le bilan officiel à 132 morts pour cette raison-là. Donc, à Paris, des cérémonies qui se déroulent sur chaque lieu de la tragédie, les terrasses endeuillées de l'est de la capitale jusqu'au Bataclan. En fait, on fait le parcours. C'est ce qu'on a décidé de faire. Les attentats du 13 novembre qui concluaient en 2015, il y a 10 ans, une année qui avait été rough pour la France. Rappelez-vous, la tuerie au sein de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier. 12 morts dont les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius et Walinski. Le meurtre d'une policière municipale en banlieue parisienne le 8 janvier. Prise d'otage dans le magasin juif Hyper Cacher à Paris le 9 janvier. Ça avait fait 4 morts. Le meurtre d'une mère de famille de 32 ans sur un stationnement près de Paris le 19 avril. Et la décapitation d'un chef d'entreprise le 26 juin à Saint-Quentin-Falavier dans le sud-est. Le 21 août, un Marocain mandaté par le groupe État islamique était monté à Bruxelles dans le train Amsterdam-Paris, lourdement armé. Il y avait une bouteille remplie de liquide inflammable. Il a grièvement blessé un passager avant d'être maîtrisé par d'autres passagers, dont deux soldats américains en civil qui se trouvaient là par hasard en vacances en Europe puis qui ont permis d'éviter le pire. Et ça a été ça, là, l'année 2015 pour la France. Un musée mémorial du terrorisme qui doit ouvrir fin 2029 ou début 2030 à Paris, qui va consacrer une part importante de sa collection au 13 novembre, 500 objets liés aux attentats, pour la plupart issus de dons de victimes et de familles endeuillées. J'aimerais qu'on revienne 10 ans en arrière avec ce reportage de France 24 pour revivre un peu ces heures qui ont été tellement difficiles pour la France il y a 10 ans, jour pour jour.
À l'instant, et une bombe elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France. Oh là là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats.
Des explosions aux abords du Stade de France. 3 au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer. François Hollande, qui assistait au match amical France-Allemagne, est exfiltré. Il découvre alors la situation dans Paris. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont ciblés par des attaques, des fusillades aveugles à des terrasses de cafés et de restaurants, comme au Petit Cambodge et au Carillon, rue Alibert.
Je vois en fait à ce moment-là une voiture avec un mec cagoulé en noir et qui tirait comme ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta, devant... J'ai directement crié...
Même scène quelques minutes plus tard à la Bonne Bière, rue de la Fontaine-au-Roi, puis à la Belle Équipe, rue de Charonne. Des dizaines de clients, de passants sont fauchés, mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé. À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu. Un journaliste du Monde voisin filme cette scène surréaliste. Des spectateurs tentent de fuir par une porte dérobée. D'autres sont même accrochés aux fenêtres. À l'intérieur, beaucoup se cachent, parfois à plus de 20, dans des petites pièces. 2 policiers de la BAC, les premiers à être arrivés sur place, entrent et abattent un des terroristes au rez-de-chaussée. Ils essuient des tirs des 2 autres retranchés à l'étage avec des otages. Les policiers de la BRI et du RAID vont prendre le relais. Le rez-de-chaussée sécurisé, les rescapés sortent, le visage hébété, parfois en sang, choqués.
J'ai vu tirer dans la foule, j'ai vu tirer sur des gens qui étaient au sol. Et ça, c'est pas des trucs qu'on a envie de voir dans la vie, quoi. C'est pas joli à voir. Ça.
Les uns sur les autres croquevillés à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà.
L'heure tourne. Vers minuit, c'est un François Hollande grave et visiblement ému qui s'adresse aux Français.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
Et puis, peu avant minuit et demi, séparés des otages et des terroristes par une porte, et après avoir longuement tenté de négocier, les policiers de la BRI donnent l'assaut.
Vers minuit 18, on a compris que de toute manière, il fallait se hâter parce qu'il devenait extrêmement nerveux et qu'il menaçait de se faire exploser. Donc, nous sommes passés à l'assaut. La première colonne a ouvert la porte. On s'est retrouvés dans un couloir, face donc à une vingtaine d'otages terrifiés, avec derrière eux les 2 terroristes qui ont ouvert le feu tout de suite. À un moment, le bouclier est tombé en avant, puisqu'on arrivait sur une sorte d'escalier. Les 2 premiers de colonne ont vu une ombre sur laquelle ils ont tiré. Et presque simultanément, une explosion a retenti, les deux terroristes étaient tués.
Il est minuit 21, l'opération est terminée. La fin de 3 heures sanglantes, jamais Paris et la France n'avaient été attaqués de la sorte.
Donc, reportage qui date de 10 ans, jour pour jour, reportage de France 24, avec des images que moi, j'avais jamais vues en passant. Il y a certaines choses, là, entre autres, comment on avait procédé à l'entrée dans les derniers instants du Bataclan, expliqué de cette façon-là. Vous allez retrouver ça sur YouTube si vous voulez voir le visuel qui va avec tout ce que vous avez entendu. Il y a des enregistrements qui ont été faits par des cellulaires, évidemment, là, quand vous entendez les déflagrations et tout ça.
C'est fou parce qu'on parle de ces événements-là puis on banalise tellement parce qu'on en entend tellement des histoires d'horreur au quotidien. J'ai comme l'impression que tu racontais ton histoire puis je t'écoutais puis je me souvenais pas de tous les détails là, de ça puis on dirait que de t'entendre, tu sais, c'est ça devait être tragique, mais c'est comme si ça t'atteint plus de la même manière tellement on entend des histoires au quotidien. Mais là, d'entendre, on dirait les coups de fusil,
ça nous ramène,
c'est réel, là.
Ça nous ramène les deux pieds dedans parce que oui, on banalise vite, puis c'est probablement un réflexe humain pour juste continuer à vivre. Exact, parce que sans ça, on vient parano puis on dort plus.
Te souviens-tu de nous cette journée-là?
La journée du Bataclan?
C'était un vendredi 13 novembre. On était en onde, on faisait le retour.
Oui.
Puis les premiers échos sont arrivés. Puis là, tout le monde essayait de départager le vrai du faux, d'essayer de comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Parce qu'avec le décalage, eux, leur soirée était entamée. Nous, on était encore en onde dans le retour.
Moi, je me souviens d'avoir parlé d'explosion au Stade de France.
Exact.
Je me souviens pas si pendant qu'on avait été en onde, on avait réussi à aller plus loin. De mémoire, toute l'histoire du Bataclan arrive plus tard.
Mais tout ce qui est le Stade de France et les terrasses.
Mm-hmm.
Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose de concerté. C'était déjà grave en partant, mais de le relater en temps réel avec la distance que nous avons géographiquement, puis même culturellement, mais je me souviens à quel point on s'est dit, ça y est, on est en train de perdre le contrôle d'une situation. Puis là, Denis a été capable de tout faire,
la chronologie
des choses. Puis on a certaines réponses par rapport à ça. Mais il y avait des chasses à l'homme qui se faisaient en même temps, qui ont duré des heures et des heures. Puis moi, j'ai jamais lâché l'actualité cette soirée-là puis cette nuit-là.
Puis toujours la même question, si tu finis.
Oui.
T'sais, et c'est un peu le même. T'sais, hier, on a parlé du film, Audrey, là.
A House of Dynamite.
Oui, puis tu dis, ce qui te choque, c'est qu'à la fin du film, il y a des informations que t'as pas. Puis je te disais, je pense que la réalisatrice a voulu rendre ça le plus réel possible. Et dans la réalité, si jamais il y a une bombe nucléaire qui saute, ça va probablement être très long avant qu'on aille des réponses. Puis la plupart d'entre nous risquent de mourir avant même de comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'ai vécu ça deux fois. Le 11 septembre 2001,
oui,
où on a passé une grande partie de la journée à se demander, un, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et deux,
ça va t'arrêter?
Tu finis?
Oui.
Et la foi de la France, ça a été sensiblement la même chose. Parce que là, tu te demandes, c'est-tu les mêmes? Parce que là, tu avais des bombes ou des bruits de bombes qu'il avait entendu au Stade de France. Puis très rapidement, on a su que le président français était là.
Ouais.
Après ça, là, on dit, OK, là, ça commence les terrasses. Puis tu sais, tu fais de la radio en direct, puis là, tu te dis, OK, là, il y a un effet de panique. C'est-tu des choses qui arrivent pour vrai?
C'est quoi l'ampleur? La vraie ampleur?
C'est ça.
Puis quand la poussière retombe, puis tu te rends compte que c'est encore plus gros que ce que tu pensais. Puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de reportages en France, entre autres pendant les commémorations de Jesse Hughes, qui est le chanteur de Eagles of Death Metal, s'est déplacé. Il a donné des entrevues quand même pas mal aujourd'hui. C'est un gars qui a été marqué par ça parce que lui, c'est un technicien de scène qui a réussi à le sortir de là au moment où les terroristes étaient en train de recharger les armes. Puis lui, tout ce qu'il se disait, « Hey, des gens sont venus me voir et sont en train de crever, puis moi, je vais me sauver le cul. » Puis l'espèce de syndrome du survivant, tu sais, où tu ne devrais pas survivre, lui en a parlé à plusieurs reprises.
Ça explique possiblement en partie les deux suicides.
Mais assurément.
Mm. Puis il y a la culpabilité d'avoir survécu à un moment où des gens ont perdu la vie.
En grand nombre.
Ouais, ouais.
Puis il y a, je lisais tantôt l'entrevue parce que lui s'est fait tatouer dans le dos. C'est le début d'un tatouage. Il s'est fait tatouer l'espèce de blason de la ville de Paris où c'est écrit Fluctuat nec mergitur. Ça veut dire il est battu par les flots mais ne sombre pas. Il dit pour moi ça relate cette nuit-là parce que j'ai vu des gens se jeter devant les balles pour sauver des gens qu'ils aimaient.
Hey.
Fait que lui, c'est les images qu'il a de cette soirée-là. Fait qu'il a donné une entrevue terriblement émouvante. 6 mois plus tard, le groupe donnait un spectacle à Québec à l'Impérial. Et par mesure de sécurité, c'est la première fois qu'on rentrait à l'Impérial puis qu'il y avait des fouilles et des détecteurs de métal.
C'est vrai. C'est
Il y avait des très longues files sur Saint-Joseph et ce que Jesse Hughes a fait, il est allé voir les gens dans la rue pour leur dire « Hey, merci d'être patient. Merci de comprendre ce qu'on fait là. » Moi, ça m'avait saisi. On avait pris une photo avec lui.
Ouais, avec
il a
lui,
fait
ouais.
le gag de plus mauvais goût de la vie. Là. Il a demandé s'il pouvait photobomber notre selfie qu'on prenait ensemble. Te souviens-tu de ça?
Non.
Pas dit ça.
Oui, il a dit ça. Puis là, je regarde, je dis « T'as-tu vraiment fait une joke de photobomb à un gars qui a survécu à un attentat? »
Je pense que c'était pas voulu. Là.
Non, c'était vraiment pas voulu.
Pas, non.
Mais tu voyais que le gars voulait continuer à faire de la musique, mais que ça avait laissé des marques. Puis moi, tantôt, de voir les images de l'entrevue, ça m'a saisi. Puis de revoir ces images-là qu'on nous, on voyait par parcelle ce soir-là. Puis je te le dis, là,
le Bataclan,
ça m'a saisi encore.
Moi, c'est un des événements qui m'a frappé le plus parce que le Bataclan, c'est une salle de spectacle que je connais bien. Puis il y a des shows que j'écoute régulièrement live au Bataclan. Il y a un show de Genesis des années 70 qui est un peu légendaire. Puis tu sais, tu regardes une salle comme celle-là, puis tu penses à l'Impérial, tu penses au petit Champlain, puis ça doit être particulier. On a un auditeur qui vient de nous écrire le soir de la tragédie du Bataclan. On était au petit Champlain pour aller voir un spectacle. Le spectacle de White Horse. L'ambiance était spéciale. Les deux membres du groupe semblaient shakés comme nous tous. C'était d'une salle de spectacle pendant que ça arrive.
Ouais.
Ça doit être spécial. Ce fut un beau moment de communion et de célébration de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Julie qui nous écrit « On est allé en Italie en 2017. Ça nous a marqué comment il y avait des gardes armés en avant des banques près des attractions touristiques comme la Fontaine de Trévi et le Colisée. À un moment, on discute avec un jeune couple français qui nous explique que maintenant, c'est comme ça pour eux aussi partout en France et qu'après le Bataclan, ils restent. Ils ne se sentent plus en sécurité. Donc, disons que ça frappait l'imaginaire à l'époque. Le chum Colosse, que je salue, nous disait le lendemain au Bataclan du show des Eagles of Death Metal, c'est Deftones qui était supposé d'être en spectacle. Le groupe est arrivé en France la veille. Le guitariste avait décidé d'aller voir le show des Eagles, mais il n'est pas resté longtemps. Il était fatigué. Il a quitté 5-10 minutes avant la tuerie.
T'imagines.
Tu sais?
Sauf si tu dois avoir, par exemple, un genre de syndrome. Ah oui. Ça doit être marquant. Écoute, de te dire « Hey, j'étais là littéralement... » J'aurais pu être là.
L'histoire la plus célèbre, c'est celle de Seth MacFarlane, le créateur de la série Family Guy. Puis le gars qui fait à peu près toutes les voix, là, il fait la voix de Brian, de Stewie, de Peter Griffin.
Il fait des albums de Noël aussi.
Oui, bien, le gars de maudite belle voix, là, Seth MacFarlane. Puis lui, normalement, devait figurer parmi les victimes de l'attentat du World Trade Center parce qu'il était supposé de prendre un des deux vols qui s'est ramassé dans les tours. Il a pris une christie de brosse la veille, son réveil. Puis il était chaud encore.
Il a manqué son vol.
Il a manqué son vol.
Parce il était à l'aéroport quand c'est arrivé.
Il s'est levé en retard parce qu'il était magané. Puis son vol est parti sans lui.
Comment tu vis ta vie à partir de ce moment-là, sérieux?
Tu dois tellement te sentir weird, là.
Tu dois dire, il faut que je trouve un sens. Il y a une raison pourquoi c'est pas arrivé.
Il y a peut-être des gens, justement, qui pensent, hey, tu dois te considérer chanceux, tu dois te mettre à triper sa vie. Peut-être pas tant que ça.
Mais c'est parce que c'est beaucoup trop. On parle pas d'un proche décédé, puis tu te dis, la vie est courte, je vais en profiter. Là. C'est pas ça. Là.
Comment t'as appelé ça tantôt? Le syndrome du survivant, c'est-tu ça?
Il me semble que c'est ça le terme qui est utilisé.
Oui.
Ça ferait du sens, en fait. Là. Je trouve
culpabilité du survivant.
Culpabilité du survivant.
Le syndrome de culpabilité du survivant. Des personnes qui savent qu'il aurait dû être un endroit, puis qu'il y a des gens proches d'eux ou des gens qui étaient dans la position qui aurait dû être qui sont décédés, puis qu'eux autres ont échappé à la mort par un concours du hasard plus qu'autre chose, puis que se demandent pourquoi eux autres, puis pas moi. Hein.
J'ai perdu le fil de la conversation quelques secondes. Ce que tu m'as envoyé, est-ce que ça s'écoute?
J'ai pas écouté encore.
C'est TF1 Info qui a publié aujourd'hui...
L'entrevue dont je te parlais.
Un peu plus tôt aujourd'hui, l'entrevue avec le chanteur des Eagles of Death Metal, donc lui qui faisait son concert sur la scène du Bataclan. Donc, on est 10 ans plus tard, une entrevue qui vraisemblablement a été réalisée aujourd'hui.
Vous vantez très rock'n'roll. Hein. À peine arrivé, après un petit câlin, Jesse Hughes s'est déshabillé pour nous montrer son tout nouveau tatouage réalisé pour les 10 ans du 13 novembre.
C'est le dos complet du tatouage. C'est le blason de la ville de Paris dont je parlais.
Okay. Le blason de Paris, et sa devise « Fluctuat nec mergitur », tatoué sur le corps en mémoire des 132 victimes du 13 novembre 2015.
That's what they are. Yeah. Rock and roll warriors.
Oui, alors cette rencontre, cette interview, il a été rendu possible grâce à Arthur Desnovo, le président de Life for Paris. Et président, voilà, le 13 novembre 2015, Arthur, il a aidé le chanteur américain à s'extirper de l'enfer du Bataclan. Depuis, ils sont devenus très proches, hein, des frères de sang, comme ils disent.
When I look back on that night, some of the most beautiful things I've ever seen or experienced came out of it. Even in real time, people jumping in front of bullets for the ones they love. And it happened that night, multiple times. Our drum tech's name was Boot. He was screaming. I looked at him and he goes, they're reloading. And at first I'm like, so fucking what? Pardon my language, like, who cares? But then I realized what he was saying, they're not shooting. And that's when we got off the stage. There was a mixed feeling there. Because I felt like I was leaving people behind.
Wow. Peut-être traduire rapidement, c'est il parle de son drum tech qui s'appelait Boot, qui lui a crié à un moment donné, parce que les gars se sont couchés à terre là, quand ça s'est mis à tirer, qui a crié, sont en train de recharger leurs armes. Puis la première réaction du chanteur, Jesse Hughes, c'est de dire, ben oui, mais...
Je m'en fous qu'ils rechargent.
Ouais, pourquoi tu me dis ça? Puis à un moment donné, il a compris, c'est parce qu'ils ont arrêté de tirer, c'est le temps de se lever, puis de crisser notre camp, tu sais. Ça saisit, il dit, j'ai vu des actes d'héroïsme, des gens, ce que tu nous disais tantôt, ouais. Se jeter devant des balles pour protéger les gens qu'ils aiment.
J'ai eu l'impression de laisser des gens derrière.
Mourir.
Les abandonner pour leur mort, c'est ça.
Et je comprends pas qu'il a continué de faire des shows.
Ouais.
Il y a une passe très tough à un moment donné.
Mm-hmm. Je sais pas.
Dans la suite des choses, puis il se retrouvait souvent dans les médias pour des affaires stupides qu'il disait ou quoi que ce soit, puis ça semble être toutes les conséquences de ce qu'il a vécu. Tu sais, peut-être des problèmes de consommation ou quoi que ce soit, mais c'était...
Ta petite tête d'humain n'est pas faite pour vivre ça, là.
On dit qu'il y a un guitariste des Deftones, c'est François qui nous envoie ça par texto. Stephen Carpenter, celui qui est allé au Bataclan puis qui a quitté 10 minutes avant la tuerie, lui, il ne voyage plus en avion.
Ah oui?
Ouais, il a commencé à développer de l'anxiété le lendemain de la tragédie du Bataclan. La pandémie n'a pas aidé non plus, mais lui, depuis ce temps-là, c'est un guitariste de remplacement. À partir du moment où le band doit prendre l'avion pour aller jouer à certains endroits, lui, il n'embarque plus.
C'est fou comment ces événements-là, par exemple, des fois, laissent des traces sans même que tu puisses y penser. T'sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des gros événements comme le Festival d'été de Québec ou dans des rues qu'on ferme l'été, puis c'est plein. Moi, j'ai peur des camions béliers. Chaque fois que j'en vois un, je pense à le dernier à Amqui. Je ne vais pas dire son nom.
Moi, ça a été après l'attentat de Nice en juillet 2016, le jour de la France. Il y a des gens qui attendaient pour un feu d'artifice, puis il y a un camion qui leur a foncé dedans. Moi, depuis ce temps-là, Audrey, puis c'est là qu'on s'est mis à mettre des blocs de béton, qu'on s'est mis à mettre des camions pour bloquer des rues, puis... Toutes les fois que je vois du monde qui ont du fun, c'est une fraction de seconde. Je ne dis pas que j'en fais une obsession, mais il y a tout le temps une fraction de seconde où j'y pense.
Oui, puis je trouve ça tellement triste qu'on soit rendu là, ou du monde qui se font exploser, ou la peur qu'il y ait une arme qui soit rentrée à quelque part, je me dis, tu le sais pas.
Moi, je fais partie peut-être de ceux qui font de l'aveuglement volontaire, mais c'est parce que moi, si je commence à prendre des secondes pour penser à ça, je sortirai plus de chez nous.
C'est malgré moi.
Fait que, tu sais, quand j'y vais, j'y pense pas. Je ne pense pas à ça dans une foule.
Je rentre dans une salle de spectacle puis je regarde les portes. Les portes de sortie, j'y visualise automatiquement. J'ai besoin de savoir où c'est. Je me fais des
plans. Je m'en vais.
Hey, tu vois comment je suis angoissé quand je suis dans du monde? Imagine-toi s'il fallait que je pense à ces affaires-là en plus. Là, c'est sûr que je ne sortirais plus de chez nous. As-tu vu la photo que Véro nous a envoyée?
Avec Jesse aussi.
Ouais. Peut-être qu'on pourrait, la...
Éventuellement.
Ah, OK.
Aujourd'hui, je trouve que c'est... je trouve ça trop sensible.
Ben écoute, il a survécu, puis c'est un rayon de soleil. Moi, je trouve ça beau.
Mais j'avais trouvé son... quand il se promenait, puis il prenait le temps d'expliquer aux gens pourquoi il faisait ça, là, j'avais trouvé très délicat, puis il n'était pas obligé de le faire.
Fait que c'est une petite page d'histoire, en fait, une petite, une grande, voyez ça comme vous voulez, mais c'est les 10 ans de cette série d'attentats-là. Juste vous rappeler le bilan complet du côté de la France. Puis on parle beaucoup des côtés sombres d'Internet. En deux clics, on est allé chercher deux reportages pour nous replonger avec émotion dans tout ça. Ça, c'est un côté extraordinaire. 132 morts, 350 blessés. Cette journée funeste du 13 novembre 2015, il y a 10 ans, jour pour jour.
Gravel, dans le retour.